plus 1, 2. Et deux mesures tiennent comme écho. Encore une fois.
Nous aurons des enfants.
J'appellerai ma fille Françoise.
15h sur France Culture, vous passez par Continent Musique aujourd'hui, loin de Paris, avec Françoise Breu, chanteuse et illustratrice installée depuis des années à Bruxelles et qui publie Zo. Quand on est né à Cherbourg et qu'on s'appelle Françoise, c'est à cause des parapluies ?
Je pense pas, mais c'est vrai que quand je réentends cet extrait tout de suite, évidemment, ça me fait penser à beaucoup de choses. Mais mon père était fan de Françoise Hardy. Est-ce que c'est... Il faudrait que je lui repose la question.
Et Françoise avec un Z, pour le coup, c'est vous ou c'est dans l'état civil?
Non, pas du tout. En fait, à l'époque, je cherchais un nom pour un pseudonyme pour mes dessins. J'ai réduit... le SE par un Z, et en fait inconsciemment on m'a dit mais c'est par rapport à tes origines bretonnes et tout ça, je pense pas du tout, mais voilà, c'est pas au rond.
Voilà, et Françoise Breu, vous publiez Zo, votre sixième album. On vous entendra jouer et parler en direct dans le studio avec Stéphane de Bercy qui est à vos côtés. À vos côtés aussi, mais de l'autre, quelqu'un qui lui aussi se tient éloigné de Paris, c'est Olivier Conan, musicien, patron de café et cofondateur de Barbès Records à Brooklyn. C'est pas dans le 18e à Paris, un label anthropophage, si le mot vous va, Olivier Conan.
J'aime bien. Voilà. C'est au sens. Un disque qui s'appelle Cannibalismo, donc...
Qui est ici, regardez. Anthropophage au sens du cannibalisme culturel, hein, tel que le prenait Oswald de Andrade. Vous dévorez à la fois des musiques venues d'Amérique, au pluriel, des Balkans, du Pérou, mais aussi de Pologne. Et puis vous êtes même venu avec un disque personnel, ce sera la surprise pour tout à l'heure, autour de la platine vinyle, puisque cette semaine, c'est Michael Simon de la discothèque de Radio France qui nous présentera des disques venus de la cordillère des Andes. Continuons musique, clic.
Les histoires se méritent, même celles qui sont vite écrites, vite. La mienne, je l'ai tant cherchée, de ville en ville, d'hiver en été. Quand j'ai trouvé mon histoire, elle m'a dit va voir cet homme là-bas. Elle m'a poussée contre lui, puis elle m'a dit maintenant je suis à toi.
Une femme sans histoire, c'est pas vous Françoise Breu, c'est extrait de votre premier album qui était paru en 97. Toutes les histoires se méritent, même si elles sont vite écrites. Il vous arrive de vous relire ou de vous réécouter, Françoise Breu ?
Oui, des fois quand j'ai pas trop le choix, c'est-à-dire qu'on doit réarranger des morceaux pour les concerts, donc je réécoute certains morceaux. Me relire, oui, avant de proposer les textes à Stéphane, avec qui on a fait les deux derniers disques. Oui, j'essaie de me relire quand même pas mal de fois.
Mais hasard ou pas, il se trouve que dans le premier titre de Zo, La Conquête, que vous allez chanter d'ailleurs tout à l'heure, il y a aussi ce mot d'histoire qui apparaît tout de suite, qui est déjà là. L'histoire vraie, j'espère avoir en ma possession une histoire vraie, un amour véritable. Vous écrivez toujours des histoires en chanson, Françoise Breu ?
Oui, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de raconter quelque chose de manière assez... c'est très court, un format de chanson, donc... raconter une historiette, une petite histoire. Donc voilà, c'est ça pour moi l'intérêt de chanter.
C'est... Oui, parce qu'on peut chanter une émotion, oui. Sans forcément qu'il y ait un récit en fait. C'était le sens de ma question.
On peut juste avoir juste des sensations, effectivement. Mais là, moi, peut-être de plus en plus, j'ai envie de vraiment raconter une histoire comme quand j'illustre mes livres ou voilà.
Alors j'avais aussi envie de vous faire réentendre ce morceau qui date de 97, qui n'a pas tellement vieilli d'ailleurs, hein, mais pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a comme un changement de voix qui paraît évident forcément avec le temps. Est-ce que vous percevez, vous, ce changement de voix, à quoi il est dû ? Est-ce que c'est dû à un travail technique, par exemple ?
Ben en fait, c'est à l'époque où on a fait ce disque en 97, il s'est fait très très vite et il n'y avait pas eu énormément de travail de répétition, c'est-à-dire que on sortait d'une tournée de Dominique avec le 22 Bar et
avec Dominica.
Avec Dominica, pardon, j'ai pas précisé, excusez-moi. Et en fait, il m'a dit voilà, j'ai quelques chansons à te proposer, est-ce que tu veux faire un disque ? Oui, pas de problème. Donc on a fait les choses très très vite, donc il n'y a pas eu ce travail de comme aujourd'hui, on fait beaucoup les morceaux en concert avant de les enregistrer. Donc c'est pas un travail de technique vocale, c'est juste qu'elles sont plus vécues avant d'être enregistrées.
Ah, on peut le réécouter. On a réécouté juste un petit bout de l'introduction. C'est drôle parce qu'il y a une couleur presque trip-hop dans ce morceau et que dans le nouvel album, on va écouter un extrait du nouvel album Zoo, vous travaillez avec le guitariste de Portishead, comme si l'histoire... Comme s'il y avait une forme de boucle.
Bah oui, c'est un petit peu... disons que sur le premier disque, il y avait des batteries et des basses un peu lancinantes qui étaient certainement inspirées de... Puisque c'était les premiers albums de Portishead et de Tricky et Massive Attack, c'était vraiment juste avant.
Ouais, tout donc, le son de Bristol qui arrive à ce
moment-là. Oui, oui. Donc ensuite, le hasard... fait que on a rencontré Adrien Nutley il y a quelques années, il nous a invité à faire un concert au festival All Tomorrow's Parties. Et donc j'ai appris par ce biais qu'il aimait bien mon premier disque et mon deuxième disque, il avait beaucoup écouté et donc à un moment il y a un an, plus d'un an, on a commencé à chercher un producteur, on a pensé à lui entre autres. Et vu que sa réaction était très rapide, on est parti travailler avec lui.
Ah, mais on écoute le résultat.
Dans le vent, le mouvement des marées. Sur cette étroite bande de vie, plane un silence troublant. Ce monde en réduction disparaîtra bientôt. Au hasard du courant, je vais devoir
Plage, un extrait de votre nouvel album Françoise Breu avec Stéphane de Bercy qui est à vos côtés. Lune Plage, c'est le nom d'une commune près de Dunkerque. Alors la musique, là, elle invite un petit peu à la rêverie. On parlait de ce côté un petit peu reggae, un petit peu Jefferson Airplane aussi dans ce qu'on entend. Mais les mots, ils parlent de quelque chose de beaucoup plus concret et d'un peu plus menaçant que ça, puisque c'est un espace naturel en fait qui est voué à, sinon à disparaître, du moins à être...
Ça y est, qui a complètement... Voilà, enfin, qui n'a pas complètement disparu, mais qui a été complètement anéanti par la construction d'un terminal méthanier, ça sonne beaucoup moins poétique, évidemment, tout à coup.
En fait, c'est un moment où on peut observer des animaux migrateurs, des
oiseaux. Ouais, c'était à la base, c'était un espace naturel protégé, soi-disant protégé, pas tellement, qui n'a pas, malheureusement, malgré les protestations des associations environnementales. En fait, moi, j'ai découvert cet endroit car un photographe avait fait un travail sur cet endroit qui allait disparaître. Il voulait que j'écrive un texte pour son exposition de photos. Et après, je lui ai dit, bah voilà, j'écrirai un morceau parce que ça me touche énormément. Je trouve ça assez terrible que ça arrive aujourd'hui, ce genre de choses, alors que c'était soi-disant un endroit protégé. Bref, voilà. Ce morceau est plus... En fait, c'est... Il faut savoir de quoi ça parle, parce que je ne le dis pas clairement dans le morceau. Et...
Ah, mais d'une ondule, oui, on peut penser d'autre chose, oui.
oui, après, on peut penser, il y a plein de sens qu'on peut imaginer, mais c'était plutôt l'histoire d'un oiseau qui est obligé de partir parce qu'il ne peut plus vivre. Donc, voilà.
Donc Loon Plage, près de Dunkerque. À propos de production, j'ai pu dire qu'au départ, vous ne pensiez pas tellement... Je reviens sur votre autre collaborateur anglais chez qui vous êtes allé, le guitariste de Portishead, Adrian Utley. Au début, vous ne vouliez pas tellement vous intéresser à la production ou au son. Vous avez travaillé avec Stéphane Dobercy à faire plutôt d'abord des bonnes chansons. C'est surtout ça qui importait. Qu'est-ce que ça vous a apporté à tous les deux d'aller là-bas? Quel regard il a pu modifier. Je ne sais pas s'il vous propose des orchestrations différentes, par exemple. Il écoute les maquettes des chansons, il vous dit, tiens, on rajouterait un vibraphone, ce serait pas mal. Quelle est sa part d'intervention?
Vas-y.
Allez, Stéphane Dobercy.
Il aimait bien les maquettes. Donc, on est quand même fortement parti des maquettes. Maintenant, nous, on avait quand même pas mal d'interrogations par rapport à certaines choses qu'on avait faites en Belgique, et on savait qu'on allait là-bas en lui demandant de quand même intervenir sur certaines choses. Donc, comment dire,
notamment
le son, ça c'est sûr, avec les maquettes, on fait ça dans une cave avec du petit matériel. Donc,
mais il y a des disques magnifiques qui ont été enregistrés avec des moyens très simples.
C'est vrai. C'est vrai.
Ah oui, je suis d'accord. Moi.
Et là, on allait là-bas pour quand même avoir du son.
enfin,
un certain son, on va dire.
Plus d'ampleur.
Oui. Un peu l'idée. Maintenant, bon, Adrian Utley, c'est un guitariste, mais c'est également un collectionneur d'instruments. Donc, dans son studio, il y avait énormément de synthétiseurs, énormément de batteries différentes, plein d'instruments, en fait. C'est vraiment un collectionneur. Et donc, on a pu jouir de tous ces instruments, essayer avec lui.
Et des micros aussi.
Et des micros,
c'est ça qui est très important aussi.
Oui.
Hein.
Et voilà, donc...
Oh, vous n'endormez pas en direct quand même.
Non. Et donc voilà.
Stéphane Dobercy, j'ai lu qu'à Bruxelles, on vous appelle l'homme en bleu. C'est vrai ça?
Vous voulez la petite histoire?
J'aimerais bien, ouais.
Ça vient d'où ça? C'est bien parce que c'est Continent Musique. Donc en fait, c'est... Bon, ok, la petite histoire. J'ai un costume bleu clair. J'habite à Matonguay, donc c'est le quartier africain de Bruxelles. Et ce costume bleu clair, c'est un abacos. Abacos, ça vient de abac costume. C'est quand, au Congo, en fait, ils ont voulu avoir, les Congolais, avoir leur propre coupe de costume pour dire aux Européens, aux Belges que existait vraiment. Et donc, ils ont inventé une coupe qui est propre aux Congolais et qui s'appelle l'abacos, qui veut dire abac costume, quoi. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et donc, il y a beaucoup de dealers à Matonguay. Et donc, tous les jours, quand je passe, on me dit « Hello, mon bleu, tu veux quelque chose ?» Et donc, voilà. 6 fois par jour, on me le dit. Ils savent que j'achète jamais rien. Mais ils me le disent. C'est marrant.
Eh bien, je vous laisse retrouver les instruments, puisqu'ils sont derrière nous. Vous n'êtes pas en bleu. Aujourd'hui, c'est Françoise Breu qui est en bleu. C'est Françoise Breu. Dans les studios de France Culture, je vous laisse le temps de vous installer. On va écouter, c'est une des premières chansons de l'album Zoo, La Conquête, et qui sera suivie de la chanson titre Zoo. On est en direct sur France Culture. Vous me faites signe quand vous êtes prêt, le temps de chausser la guitare et de s'installer devant le clavier. Olivier Conan est très attentif.
Je prends des notes. Thank you.
possession. Une histoire vraie, un amour véritable. Un qui brille comme une étoile dans le ciel énigmatique, là où la lumière ne s'éteint jamais, dans l'espace cosmique. L'amour devrait rester une espèce en voie de disparition, ne pourra survivre dans ce monde matériel, il n'en fait que sa tête. Je voudrais percer le mystère nébuleux, un des millénaires, un corps céleste sibyllin. Tous les astres sont éphémères, au loin des voix d'anges, j'espère, l'écho s'élève sans fin. Je veux encore de mes yeux sonder la matière dans les cieux, ma vie je la poursuivrai, ne plus m'égarer. Dans ce monde matériel, il n'en fait que sa tête. J'espère avoir en ma possession une histoire vraie, un amour véritable. Un qui brille comme une étoile dans le ciel énigmatique, là où la lumière ne s'éteint jamais, dans l'espace cosmique. L'amour devrait rester une espèce en voie de disparition, ne pourra survivre.
Suivant.
Électrique, traîne des mots au bout de ma langue. s'embrase des amours uniques. Bien souvent il me pousse les ailes. Je pourrais faire n'importe quoi. Bien souvent il me pousse des ailes. J'ai un éléphant sur le dos, à la peau rugueuse élastique. Le matin sur mes draps il s'étend, de tout sur leur corps je le sens. Ces six tonnes de muscles se poient, qui ne cessent de freiner mes pas. Ces six tonnes de muscles se poient, qui ne cessent de freiner mes pas. La vie est ainsi, mon corps est un zoo. Comment les dompter, tous ces animaux? La vie est un cirque, mon corps est un zoo. Comment les nourrir, tous ces animaux?
Françoise Breu et Stéphane de Bercy en direct sur France Culture. Je signale Françoise Breu le temps que vous raccrochiez le très joli petit micro que vous aviez. Qu'est-ce que c'est comme type de micro d'ailleurs ce que vous utilisez?
C'est un micro que j'utilise dans mon camion en fait parce que je travaille sur la route aussi. Donc c'est un micro Sibi, c'est un micro que les joueurs d'harmonica utilisent aussi et peut-être les joueurs d'accordéon aussi, Stéphane, peut-être.
Olivier Conan approuve. Je signale que vous serez en concert très bientôt, le 13 mai, chez vous, à Bruxelles, aux Nuits Botaniques, et puis le 27 mai à la Cave aux Poètes, c'est à Bourg-Roubaix, et le 3 juin au Point Éphémère à Paris. L'album Zoo est paru, lui, sous le label Caramel, beurre salé. Je voudrais vous faire écouter la voix, à propos de concerts et de chansons, la voix de Georges Moustaki.
La chanson, malgré ses airs de parents pauvres, est extrêmement convoitable. Enfin, son audience est d'abord énorme et puis elle est imprévisible. La chanson intervient presque à tous les moments de notre vie et à toutes nos émotions en tout cas. Oui, ce sont les événements profonds de la vie qui sont traités peut-être rapidement, avec peut-être quelquefois avec des involtures, mais avec une charge émotionnelle très profonde. Et c'est, je crois, son grand privilège. Il y a un moment donné où le fait divers ou le particulier devient tellement universel et général que qu'elle se perpétue d'âge en âge. Tout peut être chanson. Et c'est, ça aussi, ça a été une découverte, parce que lorsqu'on passe par les administrateurs de la chanson, ils vous lancent à la figure certains tabous. Il faut qu'une chanson soit gay, il faut qu'elle ait une chute, il faut qu'elle soit dansante. Et puis on s'aperçoit que non. Mais je ne suis toujours pas interprète, je suis un compositeur qui chante mes chansons. À l'époque, je chantais mes chansons, mais il n'y avait personne pour les écouter. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, parce que j'ai fait confiance au public, j'ai dit au public, n'écoutez pas ma voix, n'écoutez pas mes faiblesses, écoutez mon envie de chanter. Et là, ça a bien fonctionné. Ce que je redoute, c'est le jour, et ça arrive quelquefois quand même, où il faut chanter, parce qu'on a signé un contrat, parce que les gens vous attendent, et qu'on n'a pas cette envie totale, impérieuse. Alors, il faut peut-être trouver l'envie pendant le spectacle.
Georges Moustaki au micro de Jacques Chancel, c'était en juin 73. Vous arrivez à tous de ne pas avoir envie de chanter et de devoir trouver cette envie-là pendant le concert?
Ah ouais.
Oh oui.
Ouais. malheureusement, c'est des périodes. C'est pas toujours.
Comment
c'est,
on fait
c'est rare. Ben, on va prendre. On boit. Oui, ça, c'est une des solutions, oui, oui. On a de toute façon pas le choix et on se rend compte que c'est possible, mais voilà, c'est quand même.
Olivier Conan, ça vous est arrivé ?
Oui, ça m'est arrivé. C'est des fois difficile des fois, on déconnecte complètement et puis on se met à penser à autre chose. On a du mal à trouver sa voie de manière très littérale. Il faut reconnecter d'une manière ou d'une autre. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ça arrive pas trop souvent, mais on espère. Autrement, on arrête de jouer.
Il y a autre chose que disait Georges Moustaki, c'est qu'il a découvert à un moment que tout peut être chanson. À quel moment est-ce que vous l'avez compris, vous ? Est-ce qu'il y a des sujets, par exemple, où vous êtes dit « Ah, c'est incroyable, en fait, je peux écrire là-dessus, si je veux. » Mais pour lui, ce n'était pas une évidence tout de suite, que tout puisse faire chanson.
C'est en écoutant plein de chanteurs qui ont des styles complètement différents, plein de façons d'écrire et... C'est à ce moment-là, j'ai arrêté de penser à des choses trop sérieuses et je sais plus exactement quand mais on pouvait exprimer toutes sortes de fantaisies et tout, vrai, je sais plus quand c'est arrivé, mais
pour assez récemment vous donniez des concerts dans le cadre du festival Les Femmes Sans Mêle et on vous demandait qui étaient vos icônes féminines en musique, vous répondiez Nina Simone, ça on peut s'y attendre, mm-hmm. Et c'est tout à fait légitime, et moins évident, polystyrène.
My mind is like a plastic bag.
Là, vous aviez oublié
complètement
Olivier Conan.
Oui,
bon, c'est polystyrène, c'était la chanteuse des X-Respects, c'était en 79, leur premier album Jam 3 Adolescent. Elle est disparue, polystyrène, en 2011. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Françoise Breu ? Parce que vous n'avez pas pu la voir sur scène, vous étiez trop jeune.
Non, mais j'ai repris, c'est l'énergie punk. Après, j'ai pas suivi tout son. Apparemment, c'était quelqu'un de très engagé, tout ça. J'ai pas suivi tout ce qu'elle raconte. Mais c'était plus. J'écoutais ça quand j'avais 17-18 ans. C'est toute l'énergie du mouvement punk et ce qu'on pouvait exprimer en hurlant sur scène. Voilà.
Ma tête est un sac plastique. Oui, c'est ado, ça inspire. Vous êtes venu avec un disque personnel, un disque vinyle. Qu'est-ce que, bon, au début, vous m'avez dit, enfin, j'ai vu Stella, je me suis dit, tiens, c'est la chanteuse de Pourquoi pas moi. Non, pas du tout. Stella qu'il faut écrire avec deux T et trois L.
Oui, tout à fait. Bah, c'est un chanteur très connu. Enfin, c'était un groupe qui a dû commencer dans la fin des années 70. Et moi, je connais pas bien ce disque, mais je l'ai redécouvert récemment dans la discothèque de mon amoureux. J'aime beaucoup le mélange. En fait, ce que j'adore, c'est tout son ces jeux de mots complètement farfelus et mélangés à des influences vraiment de la fin des années 70, qui pourraient faire penser aux Marine Girls. C'est un groupe que j'ai beaucoup écouté. Et donc voilà, là c'est très particulier, c'est vraiment axé sur le jeu de mots et moi ça me fait vraiment rire très très fort.
Écoute, c'était là. Le disque de Stella. Il faut préciser, la pochette est assez géniale puisqu'il y a quelques photos et puis beaucoup de petites phrases écrites partout. Alors, le titre, Pouette Pouette, disque drôle, numéro 1 aux USA. Et puis Stéphane de Bercy me fait remarquer, mais non, mais il y a marqué en petit, ce disque n'est pas numéro 1 aux USA. Jean-Luc Fonck, donc Stella avec 2 T et 3 L. Merci pour ce disque vinyle que vous nous offrez. Françoise Breu, merci de l'avoir apporté.
My missus for trying to stay above water, you know. Stay busy, stay working.
France Culture.
Continent musique. Mathieu Conquet.
On top of things, you treat everything like it's your first project, you know what I'm saying? Like it's your first day, like I wasn't even an intern. Like, that's how you try to treat things, like, just stay hungry.
Je vais faire un jeu de mots à la Jean-Luc Fonck. Pourquoi est-ce qu'on passe du Coca Light avec d'un coup Jay-Z, Michael Simon, de la discothèque de Radio France?
Comme vous l'avez dit.
Parce que vous m'avez dit, on va passer des disques qui viennent des Andes. Et là, vous commencez avec Jay-Z.
Ça me paraît évident.
Alors, explication. Non,
effectivement, là, on entend la chanson My First Song de Jay-Z, qui d'ailleurs, comme son nom ne l'indique pas, se situe sur la dernière plage du Black Album, sorti en 2003.
C'est conceptuel.
Et donc, cette chanson comprend un sample qui est omniprésent.
Là, c'est la petite guitare qu'on entend dans l'intro. D'accord.
Exactement. Et que donc, nous avons retrouvé sur un 45 tours de la discothèque, et qui vient d'un groupe chilien qui s'appelle Los Angeles Negros, qui est un groupe qui fait de ce qui s'appelle de la balada rockmantica. C'est censé être un mélange de boléros, de funk et de rock psychédélique. Et donc là, je vous propose d'écouter donc la phase B de leur premier single sorti en 68 sur le label Odeon, qui s'appelle Tu y tu mirar, yo y mi canción. Et on va pouvoir un petit peu...
Le sample, donc, Los Angeles Negros. Ah oui.
No sé qué tiene tu mirar, que aún sin querer me hace soñar. O es que tus ojos siempre a mis sueños ligados estarán. Aquel amor se terminó.
De couper.
Moi, je vois toujours pas trop le côté rock, funk de la balada rockmantica, mais...
Mais votre disque a fait vriller les yeux d'Olivier Conan, vous connaissez non seulement le groupe, mais aussi le label.
Ben oui, c'est un pressage péruvien, parce que c'était un groupe très très connu, qui est toujours d'ailleurs. Il y avait une version péruvienne de ce même genre de groupe qui s'appelle Los Pasteles Verdes. qui paraît faisait des balades très, des fois très lentes, presque aussi lentes que de la musique namuroise, et qui sont devenues énormes, surtout au Mexique, qui sont installés au Mexique. Pareil pour Los Angeles Negros, qui ont une grosse, grosse influence sur le rock chicano.
Qui continuent d'exister ou pas? Parce qu'il y a certains groupes. Voilà,
Ils continuent d'exister. Ouais.
C'est toujours les membres originaux ou c'est leurs fils?
Je ne sais pas, mais il y a eu un gros comeback de cette musique en général, surtout à Los Angeles, chez les troisième génération, deuxième et troisième génération chicanos, qui commencent à s'inspirer de cette musique et la mélangent avec des trucs plus funk ou carrément plus cumbia aussi. Il y a un groupe en ce moment qui s'appelle Chicano Batman, qui vient de Los Angeles, qui est super. Et ils mélangent toutes ces influences en rajoutant ce qu'ils ont appris depuis, parce qu'ils ont grandi dans un endroit plus multiculturel.
Une pire redécouverte qui est sans doute liée aussi à votre travail avec Barbès Records. On va avoir l'occasion d'y revenir. Cette fois-ci, vous avez exploité tout le fond, Michael Simon. Vous avez voulu proposer toutes les formes. Donc après un 45 tours, vous avez dit on va passer un 78 voilà, tours. Donc on vient de mettre...
Simplifier la vie.
Il n'y a pas de cylindre.
C'est vrai, on aurait dû venir avec un cylindre.
On en a. Voilà.
Vous le mettez au défi. Vous revenez la prochaine fois, il aura un cylindre. Il n'y aura pas de problème. Alors qu'est-ce que c'est que ce 78 tours?
Alors c'est un 78 tours assez improbable. Parce qu'il s'agit en fait de l'interprétation d'une retranscription à l'occidental de mélodies populaires indiennes du Pérou.
Et tout ça dans les années 30.
Voilà, exactement. On est en 1934. Et donc c'est la chanteuse, la grande soprano Ninon Valin, donc très célèbre au début du XXe siècle, qui en fait interprète une des mélodies populaires indiennes publiées en 1923, qui a été en fait recueillie et harmonisée par la musicologue et compositrice Marguerite Béclard d'Arcourt, qui est allée au Pérou, en Bolivie et en Équateur pour retranscrire la musique de là-bas. Et donc ça donne une interprétation assez particulière.
On écoute. Vous avez une théorie, Olivier Conant, sur cette adaptation assez curieuse, un peu lyrique, du répertoire des musiques des Andes dans les années 30.
C'est pas une vraie théorie, mais
une explication.
C'est vrai que dans les années 20 et 30, il y a eu comme une obsession pour tout l'exotisme, qu'il soit sud-américain ou qu'il soit africain, avec des transcriptions. Ça commence avec Darius Milhaud, avec des trucs brésiliens, en poésie, on passe par Sandrars, etc. Je pense que ça fait probablement partie un peu du même élan, qui est un mélange de colonialisme et d'intérêts ethnologiques. On ne sait jamais où la ligne se trouve exactement.
Et donc c'était la voix de la soprane Ninon Valin qui interprétait donc un hymne au soleil retranscrit. Ça c'était en 78 tours. Et puis alors, vous faites des tours de passe-passe incroyables. Vous avez déjà remis la tête normale et la vitesse adaptée pour cette fois-ci un 33 tours. Et oui, Michael Simon. Alors qu'est-ce que c'est?
Mais en fait là on a entendu Ninon Valin qui chantait donc l'hymne au soleil comme vous disiez et qui chantait quand même en quechua. Malgré l'interprétation lyrique à l'occidental, elle avait quand même gardé
la langue originale.
Et donc là, je voudrais vous faire écouter un disque de la chanteuse bolivienne Luzmila Carpio, qui pour le coup chante en quechua, mais ça paraît un peu plus normal vu que c'est la langue de son peuple.
Elle chante en aymara aussi, non?
En aymara aussi. Ouais. Et là, sur ce titre, elle chante en quechua. Et ce disque, moi j'adore l'écriture dessus parce qu'il y a une petite phrase où c'est marqué « Un peuple qui ne chante pas est un peuple mort ». Et c'est un disque assez particulier, parce qu'il a été enregistré tout près d'ici, puisqu'il a été enregistré au studio 106 de la Maison de la Radio, en 83.
À 20 mètres d'ici.
Voilà.
Alors, c'est un disque au Cora.
Forcément, le label du Musique du Monde de Radio France. Et apparemment, il n'a jamais été réédité en CD. Donc, je vous propose d'écouter cette belle interprétation du titre Amasua, Amayulia, Amakeya par Luzmila Carpio.
Capable de tous les aigus, Stéphane de Bercy, bluffé par la voix de cette chanteuse, que vous connaissiez de nom, Françoise Breu, vous ne l'aviez pas entendu, mais...
Oui, j'ai un ami qui l'a suivi en tournée récemment, donc je m'étais toujours dit que j'allais aller jeter une oreille, et je découvre, c'est magnifique.
Et Olivier Conan, vous êtes...
Je suis fan, mais je ne l'ai jamais vu live. Elle devait venir à New York, je sais, ça ne s'est pas passé, mais les Argentins de Zizika ont fait une compile de remix de chansons de Luzmila Carpio qui est sortie l'année dernière. Je ne sais pas si c'est dans ce contexte-là que...
Peut-être, oui, oui.
Ah, et qui mélange alors un peu d'avant-garde et du coup...
Non, qui mélange, c'est plus classique électro avec sa voix. Avec
ça promet d'être étonnant.
Les premiers disques de Luzmila Carpio avant qu'elle vienne en France étaient presque plus avant-garde à nos oreilles, quoi, avec beaucoup de percussions, beaucoup de voix doublées, et des choses quand même assez délirantes. Hein.
Puis il faut signaler aussi qu'elle aura une carrière d'ambassadrice, hein, puisqu'elle a été en poste ici en France, ambassadrice de la Bolivie, Luzmila Carpio. Dernier disque, Michael Simon. Alors là, j'espère peut-être on va réussir à surprendre Olivier Conan, mais on sait jamais.
C'est facile. Hein.
Non, mais là, on est un peu sur votre territoire, donc bon, on est dans les Andes.
C'était le but d'essayer de vous surprendre, c'était un défi. Et donc là, c'est un disque qui s'appelle Your Struggle is Your Glory. Et donc là, ce sont vraiment, pour le coup, des enregistrements de terrain collectés par John Cohen, musicologue américain.
Qui a fait beaucoup de documentaires sur les Winos.
D'ailleurs, dans ce vinyle, ce sont des extraits des bandes originales de deux de ses films, Mountain Music of Peru et Keros, The Shape of Survival. Et là, ce que je voulais vous faire entendre, c'était le vrai son de la harpe. Parce que tout à l'heure, on a entendu sur le 78 tours, l'interprétation occidentale avec une harpe d'orchestre à pédale. Et donc là, je voulais vous faire entendre la vraie harpandine, qui est assez incroyable, d'ailleurs, même par sa forme. Parce que là, on voit un tout petit peu, en fait, sur la pochette, un instrument assez étrange qu'on a du mal à distinguer, mais qui se trouve être une harpe. Et je vous ai même ramené pour vous en studio, en fait, une photo assez incroyable.
Qu'on mettra en ligne sur le site. Il faut signaler, c'est une sorte d'énorme triangle qu'on porte à l'envers sur l'épaule et qui fait la caisse de résonance de la harpe.
Voilà.
Et dont on écoute le son. Gaviota, un extrait donc de harpe andine. Merci pour toutes ces découvertes, Michael Simon.
De rien.
Le DJ. Hein.
Olivier Conan approuve. Mais écoutez la suite. Et ce que vous entendez à l'instant, c'est Xixa Killer, un extrait du premier album de Xixa, édité sur votre label, Olivier Conan. Le titre de cet album, Bloodlines, ça dit bien le projet de leur musique, mais aussi de la vôtre, hein, celle de Barbès Records, en fait, suivre les lignes du sang ou de l'héritage. Dans leur cas, c'est entre le rock du désert de l'Arizona, que vous connaissez un petit peu, Françoise Breu, puisque vous êtes assez proche du groupe Calexico. Donc il y a une forme de pont qui peut se faire. Et puis de l'autre côté, pour Xixa, il y a aussi des influences qui viennent vraiment d'Amérique du Sud et de la cumbia, mais qui va être vraiment très très transformée. Cet assemblage d'influences et la rencontre entre Gabriel Sullivan et Brian Lopez, qui sont les deux chanteurs et leaders de ce groupe Xixa, quelle part est-ce que vous y prenez, Olivier Conan ?
Créativement, pas vraiment. Moi, j'ai rencontré Brian Lopez en premier parce qu'il jouait avec Marianne Dissard, que tu connais, à Barbès. Et j'ai donné un demi-disque, Chicha Libre, et un disque de Russell Chicha. Et il a craqué dessus. Il a commencé assez rapidement un groupe de covers de classiques de la Chicha avec Gabriel Sullivan. Et le projet s'est transformé en un projet original au cours des années. Et moi, je les ai suivis d'un peu de loin. On avait fait des concerts ensemble au Texas il y a 2 ans, qui s'étaient très bien passés. Et puis, quand ils ont voulu faire leur premier disque, je leur ai dit qu'il me semblait naturel de le sortir parce qu'on avait un peu une histoire commune. Et puis que j'aime beaucoup Moi, j'aime toutes les musiques matinées. J'aime qu'on prenne un projet et qu'on en fasse ce à quoi on ne s'attend pas. Et donc, ils ont fait une version très différente de ce que moi, je faisais avec mon groupe Chicha Libre, en mettant un aspect beaucoup plus rock, beaucoup plus lourd, moins latin. Et puis, c'était une autre façon de changer l'histoire de cette musique.
Voilà, disque en tout cas très singulier. C'est les dernières sorties du label Barbès Records. Xixa, qu'il faut prononcer Chicha.
Ils ont fait un peu exprès de laisser ça de manière ambiguë, mais c'est Xixa. Ils disent le premier est un S, le deuxième est un X.
Alors, je le disais, Barbès Records, un label américain, puisqu'en fait, vous êtes installé à New York, Brooklyn. Pourquoi d'ailleurs avoir quitté Paris, la place de Clichy, qui vous a vu naître, pour la Grande Pomme, hein, Olivier Conan ?
Je suis parti il y a tellement longtemps, je m'en souviens à peine. Mais je suis parti pour une femme.
Raison valable.
C'est soit ça, soit les raisons économiques en général. J'aurais 20 ans, donc...
Quand vous fondez Barbès Records, je crois, c'est avec Vincent Douglas, qui joue avec vous d'ailleurs dans le groupe.
Le label, non, le label, je l'ai commencé tout seul. On a commencé le club à Brooklyn.
Ensemble. Ah, alors voilà, c'est la question que je voulais vous poser en fait, puisqu'il y a un club qui est un bar où qui est pas très grand, qui doit contenir une centaine de personnes.
Même pas, une soixantaine. La salle elle-même est une soixantaine de personnes, ce qui permet de faire beaucoup de choses.
Mais alors, vous commencez par le club avec l'idée juste d'avoir un endroit où vous allez faire jouer les groupes que vous aimez bien. Qu'est-ce que vous avez
En gros, oui. J'aimais l'idée d'avoir un endroit où je puisse programmer ce que je voulais, avoir une liberté totale dans ce que je pouvais présenter aux gens. Parce que j'ai l'esprit plutôt indépendant. J'ai travaillé pour une grosse salle de concert avant, mais c'était moins intéressant parce qu'il fallait mettre 1500 personnes dans la salle. Donc.
C'était aux États-Unis ou en France?
Aux États-Unis, oui. J'ai jamais travaillé en France. C'était, je travaillais pour une grande salle qui s'appelle Town Hall, qui était une des grandes salles respectables de New York. Barbès a commencé comme ça parce que je connaissais beaucoup de musiciens, parce que je voulais présenter un type de musique qui ne se faisait pas forcément beaucoup à l'époque à New York, où c'était soit rock, soit jazz, soit c'était très, très cloisonné. Et ça ne me plaisait pas beaucoup, donc on a commencé le Barbès à cause de ça.
Quel est l'environnement musical, enfin je veux dire l'environnement, le quartier? Il y a d'autres salles autour de vous, dans le quartier de Brooklyn, où vous vous trouvez?
On est dans un quartier qui est devenu très, très bourgeois ces 15 dernières années, donc c'est devenu de moins en moins musical et de moins en moins artistique. On a eu la chance de survivre jusqu'à présent, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc on n'a pas beaucoup de gens qui font ce qu'on fait proche de nous, c'est plutôt dans le nord de Brooklyn, vers Williamsburg, Bushwick... East New York, que les gens commencent à avoir d'autres types de salles, des attitudes nouvelles.
Alors, vous parliez un instant de ces compilations Roots of Chicha qui ont fait sensation aux États-Unis comme en France. On écoute un extrait et c'est le groupe Los Mirlos.
Thank you. muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. ¡Oh, oh, vaya! ¡Rico sabor!
Los Mirlos, un des groupes présentés par Roots of Chicha, volume 1, cumbia psychédélique du Pérou, comme il est précisé dans le sous-titre. Quel rapport avec la boisson rose qu'on voit boire, enfin on voit les musiciens dans le livret, des grands verres de boisson rose, qu'est-ce que c'est ?
Il y a un grand rapport, c'est du maïs fermenté, qui était la boisson précolombienne par excellence, c'est la boisson des Incas. C'est comme ça qu'ils ont accueilli les conquistadors quand ils sont arrivés avec les verres de chicha. Et c'est un peu le symbole de la culture quechua, de la culture andine. Et quand cette musique a commencé à devenir populaire, surtout dans les ghettos, dans les mauvais quartiers de Lima, qui avait beaucoup d'indigènes, la chicha est devenue le nom de la musique parce que c'était un symbole assez puissant pour eux.
Mais un nom qui, on le comprend en lisant les notes, hein. Il faut vraiment acheter les disques, hein, parce que pour le coup, il y a beaucoup de photos, de notes, vous expliquez, vous avez fait beaucoup de recherches sur tous les groupes, certains qui n'existent plus.
Dites-le encore une fois, il faut vraiment acheter les disques.
Voilà. Non, mais ils sont en activité. Non, mais il y a un intérêt vraiment éditorial. Vous expliquez la vie de chacun de ces groupes, mais vous expliquez aussi que le mot chicha est assez péjoratif, en fait. Est-ce que le fait que vous, un gringo, un étranger, vous intéressiez à cette musique, ça a changé leur regard sur leur propre musique?
Oui, ça l'a changé. C'est quand même assez intéressant. Quand je suis allé au Pérou pour la première fois, c'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. J'ai un peu craqué sur cette musique parce que bon, c'est une musique qui pour nous paraît très moderne parce que c'est un mélange, il y a du pastiche, c'est une musique très intelligente, mais en même temps c'est une musique de pauvre, donc elle n'a jamais été prise au sérieux au Pérou. Là.
C'est une musique de bal en fait. Hein.
Ouais, c'est une musique de bal. C'est devenu aussi une musique de radio, quoi. Mais c'est une musique de race, comme on disait aux États-Unis fin des années 50. C'est pas fait pour les bourgeois. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs au Pérou, mais c'est quand même eux qui contrôlent toute l'information. Et cette musique n'est jamais arrivé donc parmi les classes moyennes. Donc chicha est devenu un mauvais mot, un mot qui représente les voleurs, les gens qui n'ont pas d'argent, et on s'en est arrivé à devenir, on parlait de la presse chicha par exemple, où c'est devenu un adjectif péjoratif pour plein de choses, pour tout ce qui est populaire en fait.
Voilà, un mot que vous réhabilitez avec ces compilations Roots of Chicha, et puis que vous rejouez puisque vous avez créé un groupe Chicha Libre qui réinterprète ce répertoire, et puis qui en détourne d'autres au passage. On écoute un extrait là. Ravel réinterprété vraiment très différemment par votre groupe, Olivier Conant. C'est drôle parce qu'il y a toujours des reprises de répertoires classiques dans les disques que vous éditez. Il y a un Seguidile de Bizet, version harmonie vocale au féminin.
Vous avez vu le disque.
C'est dans la Serubias,
Del Norte.
Il y a aussi la Lettre à Élise. Alors que là, c'est vraiment Beethoven version cumbia. Version géniale, hein, que je recommande, qu'on peut trouver dans Roots of Chicha, numéro 1. À quoi ça tient ce rapport entre la musique classique européenne, retravaillée comme n'importe quelle matière en fait,
Parce que c'est n'importe quelle matière justement, ouais. Parce que je sais pas, moi j'ai grandi avec autant de musique classique que de variété, que de rock, que de salsa. Et tout ça, ça fait partie, c'est un seul corpus hein, quand on y pense. Et les gens qui essaient de séparer toutes ces musiques-là, je pense, ne sont pas musiciens pour la plupart. Mais surtout, au Pérou, c'était quelque chose qui se faisait. Donc la version de Enrique Delgado de la lettre pour Élise, c'était lui qui la faisait, c'était pas pour... ça faisait partie de son patrimoine aussi.
Oui, oui, c'est-à-dire que les gens pensaient, on pense plus vraiment à Beethoven, mais de même que Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Hein, c'est devenu aussi une chanson populaire en France. On parlait tout à l'heure, Stéphane, le guitariste, demandait où se situait votre bar. C'est à Park Slope, à Brooklyn. Et il y a peu de temps, dans votre bar, il y a eu un kidnapping. José Gregorio a été kidnappé. Mais alors, vous avez mis une annonce, ça a été publié, il y a eu un article dans un journal
New York Times.
Dans le New York Times, ouais. Qui est José Gregorio? Quelle importance il a?
José Gregorio, c'est un peu ma mascotte. C'est un saint vénézuélien. C'est le premier. C'était un docteur qui traitait les pauvres au Venezuela.
Qui a fait ses études en France.
1905, qui a fait ses études en France, qui est revenu au Venezuela pour une espèce de sacerdoce médical, et qui a été renversé et tué par la première automobile vénézuélienne. Alors, il y a un nombre de niveaux de symbolisme là qui est trop beau. Puis en plus, il a une super tête. Hein. Il ressemble un peu à une combinaison de Saddam Hussein et Malverde, le saint des voleurs au Mexique. Hein.
Alors, on vous a volé la statue.
Quelqu'un l'a volé, ouais. Quelqu'un vraiment est venu. C'était un hipster avec un long imperméable. C'est ce que m'a dit, j'étais pas là.
Mais alors, du coup, le New York Times ironisait sur le fait qu'on recherche un hipster dans le quartier de Brooklyn. Ça va être difficile de le trouver. Vous êtes venu avec un 33 tours personnel. C'était l'occasion de voler celui de votre mère.
Exactement.
Et je vous en félicite puisque c'est Georges Solti.
J'espère qu'elle n'écoute pas.
Qui dirige Malheur. C'est trop court, de la symphonie de Mahler dirigée par Georges Solti. Pourquoi vous avez choisi ce disque, Olivier Conant?
Ça vous plaît pas?
Ah bah si, magnifique, mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a entendu avant, on est surpris.
Bah pour deux raisons. D'abord, j'ai pas mes disques à Paris, mes disques sont tous à New York, donc il a fallu que j'aille. J'ai été voir dans les disques de ma mère ce qui m'avait influencé quand j'étais petit. Moi, c'est une de mes premières grandes émotions musicales, c'est aussi un des premiers exemples d'un morceau qu'on peut prendre et reprendre et torturer et triturer et dans ce cas le transformer de majeur en mineur avec j'ai toujours préféré le mineur parce que je crois que je suis français, que c'est le cas de beaucoup de français. C'est pour ça que j'aime la musique latine aussi, mais oui, c'est pour ça. Donc c'est un de ces morceaux qui m'a appris qu'on pouvait bidouiller.
Et on continue de bidouiller, il est bientôt 16h, on arrive au terme de l'émission. Merci à chacun d'entre vous, Olivier Conant, tout ce qu'on a entendu est édité, excepté Malheur. Chez Barbex Records, les Chiliens de Chico Trujillo seront au Cabaret Sauvage ce samedi à Paris. Et puis Xixa sera en concert le 11 mai aussi à Paris, à la Flèche d'Or. Françoise Breu, l'album Zo est édité, j'adore le nom de ce label, Caramel Beurre Salé. Meryl, c'est à vous.
C'était Continent Musique, un magazine de Mathieu Conquet, équipe de réalisation Olivier Guérin avec Alex Dang et Théo Gomard, préparation et archives Meryl Moneghetti. Rendez-vous sur le site de France Culture pour retrouver toutes les informations et podcaster Continent Musique. Un grand merci à Mickaël Simon de la discothèque de Radio France, aux équipes de la documentation d'actualité et à celle de l'INA.